Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. Il y a Jean-Sébastien de la Liberté qui me fait des simagrées derrière sa vitre et derrière sa console. C'est Marianne Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » que vous écoutez sur Canal M. Demain 3 février, c'est le vernissage de l'Expo Encan. Parle-moi d'amour. Tout ça au profit de l'organisme Les Impatients. C'est la 18e édition de ce rendez-vous qui est annuel et j'aurai la chance de discuter avec le porte-parole en deuxième partie d'émission, James Henman. Aussi, vous dire que j'ai entendu parler pour la première fois de thérapie génique il y a à peu près 3 ans. C'était dans le magazine Force. On relatait le parcours d'une jeune femme, la trentaine, vivant avec une maladie extrêmement rare et qui, suite à cette nouvelle approche où elle se décrit carrément comme une cobaye, de l'approche génique, nouvelle approche donc thérapeutique, elle a vu sa santé s'améliorer grandement, sa qualité de vie aussi, jusqu'à pouvoir donner la vie. Ce qui est en soi un miracle parce qu'on lui avait toujours dit dans le passé, ses médecins lui avaient dit « des enfants, t'en auras jamais, oublie ça ». Ça m'avait complètement fascinée, en même temps je trouvais ça assez difficile à comprendre, mais beaucoup marqué à tel point que je m'en rappelle encore et j'avais ce souhait de revenir sur le sujet. Je le fais à l'instant avec Gaëlle Ouellette, directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Gaëlle Ouellette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est notre rendez-vous annuel à nous aussi. Hein?
Oui, merci beaucoup de m'inviter encore.
Eh bien, merci à vous parce que vulgariser la thérapie génique, c'est pas nécessairement évident. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous parce que ça prend quelqu'un assez ferré en la matière pour pouvoir l'expliquer au grand public. La chose que j'ai cru comprendre, Gaëlle, c'est que lorsque l'on parle de thérapie génique, on doit parler au pluriel parce que c'est pas une approche précise, c'est plutôt une méthode générale. Il y a beaucoup de thérapies géniques.
Vous avez tout à fait raison. On peut dire que thérapie génique, c'est le nom là, général d'une thérapie qui, évidemment, implique les gènes, mais effectivement, il y a beaucoup de technologies ou de techniques qui peuvent être utilisées aujourd'hui.
Mm-hmm. Oui. C'est quoi la thérapie génique?
Bien, de façon générale, la thérapie génique, c'est une thérapie, donc traitement, qui vise à traiter une maladie par l'introduction d'un gène, donc un segment d'ADN dans les cellules ou les tissus de l'individu qui a la maladie. Donc, c'est fait pour les maladies dont la cause est un défaut dans un seul gène. Ah. Bon, ça, c'est la définition générale, là. Donc, on vise à remplacer le gène défectueux par le gène normal, mais avec des variations, on peut aussi même complémenter le gène défectueux par un gène fonctionnel. On peut même faire surexprimer un gène fonctionnel ou même interférer avec l'expression d'un gène non fonctionnel. Donc, ça, c'est des variations, mais en gros, là, c'est d'essayer de réparer la source du problème ou de la maladie, la source génétique.
Oui. On parlait tout à l'heure qu'il y a plusieurs techniques attribuées à la thérapie génique. Je sais qu'il y a des injections, entre autres choses. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres techniques?
Oui, effectivement, il y en a d'autres, mais la plus courante, effectivement, c'est l'injection, puis l'injection d'un virus. Hein. C'est depuis le début, c'est ça qu'on essaie. Là, on appelle ça un vecteur. On essaie de trouver quelque chose qui peut livrer, finalement, le gène dans les cellules de l'autre, là, l'humain malade, en fin de compte. Fait que c'est la plus utilisée, on peut dire. Donc, c'est un gène qu'on a modifié pour pas qu'elle soit, un virus qu'on a modifié pour pas qu'elle soit pathogène. Mm-hmm. Puis, on lui intègre le gène normale, si on veut. Puis là, on l'injecte dans des cellules, dans les tissus, des organes où on espère qu'elle va soit exprimer, le gène va être exprimé dans ces cellules-là, ou faire intégrer le gène normal dans l'ADN, dans le génome de la personne. Mmh. Fait que ça, c'est la méthode la plus utilisée. L'autre chose qu'on essaie, mais que ça fonctionne moins bien, on travaille encore là-dessus, c'est d'introduire même des molécules d'ADN nues, là, sans le vecteur. Alors, mais effectivement, il y a d'autres techniques là, plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Mm-hmm.
Gaëlle, lorsque l'on parle d'injecter un virus, j'imagine qu'il y a des risques de rejet.
Oui, exactement. C'est même qu'il y a d'autres risques puis obstacles. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'étais dans le début des années 80 dans un laboratoire. Là, j'étais biologiste moléculaire aux études. Puis pour nous, c'était, on faisait ce qu'on appelait à l'époque de la génie génétique. Puis on pensait que ça arriverait assez rapidement que la thérapie génique marcherait. Mm-hmm. Mais il y a eu des obstacles. D'abord, effectivement, comme c'est un virus, il peut y avoir une réponse immunitaire, hein, donc un rejet. Puis aussi, cette réponse-là peut diminuer l'efficacité de l'expression du gène normal qu'on veut. Ensuite, l'intégration, le virus va apporter qui intègre dans l'ADN de la personne avec la maladie, ça ne veut pas dire que ça va être stable, cette intégration-là. Ça dépend où ça se fait, comment, puis fait que des fois, on perd finalement le fameux gène normal intégré. Mm-hmm. L'autre chose avec les virus, les vecteurs viraux, c'est qu'il peut y avoir même de la toxicité, des réponses inflammatoires. Et ce qu'on a même vu, c'est ils peuvent s'insérer quelque part dans le génome humain où ils peuvent induire un gène de suppression de tumeur, donc causer des tumeurs. Et ça, c'est arrivé. Puis, donc, il y a eu des périodes où ça a été difficile, la thérapie génique, où il y a même eu des moratoires, des arrêts, mm-hmm. parce qu'il y a des gens dans les essais cliniques qui sont deux personnes, entre autres, qui sont décédées, dont un de cancer, et puis il y en a deux autres qui ont développé des cancers dans une étude à cause du vecteur viral où il s'est intégré. Alors, ça a été une période difficile pour la thérapie génique, mais c'est pour ça qu'on travaille toujours sur la transformation des virus vecteurs et d'autres façons de faire la thérapie génique.
Donc, c'est ce qui explique que dans les dernières années, oui, il y a eu des découvertes, mais ça peut être pas autant avancé qu'on l'aurait souhaité.
Bien, je dirais que oui, on avance quand même.
OK.
C'est qu'il y a eu ces obstacles-là, puis ça a arrêté même une période où on y travaillait moins, mais depuis 2006, je dirais que ça s'est reparti, puis il y a eu des bonnes nouvelles en 2012, en 2014, depuis 2012, beaucoup, là. En fait, une des choses, c'est que on a découvert une technique dont il est question beaucoup maintenant, dernièrement dans les médias, qu'on appelle le CRISPR, C-R-I-S-P-R. Oui. Mm-hmm. Fait que c'est finalement une technique d'édition d'ADN. C'est comme d'édition de texte, là, où on peut, c'est en intégrant des gènes dans le vecteur qui vont produire une enzyme qui va découper, éditer l'ADN chez la personne pour en faire une copie normale, pour la corriger ou même ajouter des bouts, en enlever des bouts, la corriger. C'est vraiment comme de l'édition de texte. Mm-hmm. Puis ça, c'est une méthode beaucoup plus simple, plus précise, plus rapide et moins coûteuse. Fait que c'est la grosse, grosse mode maintenant et ça a l'air on a de l'espoir là, pour ça. Par contre, je dois le dire parce que celle qui a inventé, une chercheuse qui a participé à l'invention de cette technique-là, mais aussi des bémols, là, parce que, évidemment, quand on va jouer avec l'ADN d'une personne, on a toujours peur de faire des choses qui pourrait aussi causer des problèmes.
Est-ce que la thérapie génique convient mieux sur certaines personnes? Je reviens à cet article paru dans le magazine Force il y a quelques années. La jeune femme dont je parlais tout à l'heure avait un mode de vie exemplaire. Activité physique tous les jours, régime alimentaire très strict. Elle avait développé ces habitudes-là puisque le diagnostic de sa maladie rare était tombé très, très tôt. Là. Elle n'avait même pas un an. Est-ce que pour d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas ces habitudes de vie-là aussi saines, la thérapie génique serait moins efficace?
Je dirais pas que c'est ces facteurs-là qui ont un gros impact. Mm-hmm. Vous savez, de toute façon, c'est bien que cette jeune femme-là ait eu de bons résultats là, de son traitement, mais il y a quand même des limites. Il y a eu beaucoup d'essais cliniques jusqu'à maintenant, puis chez certaines personnes, certaines maladies, ça fonctionne. Mais les maladies, c'est des maladies monogéniques qu'on appelle, hein, parce que pour l'instant, là, on vise juste à réparer un gène. Des maladies qui ont plusieurs gènes, là, on ne peut pas trop y toucher encore. Puis ces maladies-là, c'est vraiment la cause de la maladie, c'est le défaut dans le gène. Là, les autres facteurs ont moins d'importance. Ils ont de l'importance, les habitudes de vie, pour la qualité de vie de cette personne-là, comme n'importe qui. Puis il y en a que c'est vrai que ça pourrait être plus important dépendant des maladies. Par exemple, il y a des diètes spéciales des fois.
OK.
Mais ce que je dirais pour la thérapie comme telle, c'est vraiment la biologie qui est le plus important facteur, là, le mécanisme biologique de ces technologies-là qui fait que ça va bien fonctionner ou pas chez la personne. Par exemple, on avait de l'espoir que ça fonctionne pour des maladies là, multisystémiques qu'on guérirait, là, mais non, c'est rarement une guérison. Mm-hmm. Et puis, ça fonctionne mieux des maladies où on a une cible très précise. Par exemple, dans les dernières années, il y a eu des beaux résultats pour les maladies de la rétine. Parce que là, c'est plus simple, on injecte à un endroit précis, c'est là qu'on veut corriger. Une bonne nouvelle, en 2012, il y a eu le premier médicament, Glybera qu'on appelle, de thérapie génique, qui a été approuvé en Europe pour l'hyperkylomicronémie.
Ah ben voilà, c'est de la maladie qui touche la jeune femme mentionnée tout à l'heure.
Ben voilà, c'est de cette maladie-là, effectivement. Puis ça a été une bonne nouvelle. Après tant d'années, une première acceptée en Europe. En fait, il y en avait déjà eu une autorisée en Chine puis une en Russie. Mais ça aussi, là, on cible un organe plus précis, fait que ça marche mieux. Mais pour d'autres maladies, il y a des essais chez les animaux, mais quand on arrive chez l'humain, ça fonctionne moins bien ou l'effet ne dure pas.
Ah oui. Donc, la personne retombe malade et retourne à sa maladie.
Oui, par exemple, même le Glybera, on pensait peut-être là, que c'est un traitement et voilà, c'est terminé. Et le problème aussi, c'est que ça coûte cher. C'est des nouvelles technologies biologiques, donc ça coûte cher. Mais on pensait un traitement comme ça, même s'il est coûteux, ça serait assez, la personne serait guérie, mais non. Comme même certaines thérapies pour la rétine, finalement, l'effet ne dure pas nécessairement tout le temps ou ça baisse là, au cours des années. Puis là, on doit refaire des injections. Mm-hmm. Par contre, il y a une nouvelle technologie aussi, là, dont vous parliez de nouvelles découvertes. On a ce qu'on appelle maintenant la thérapie génique ex vivo. Ça a été appliqué à des maladies qu'on appelle, entre autres, les leucopies. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les cellules souches de la personne, les cellules souches du sang, on les retire de la personne, on fait la correction du gène par la thérapie génique et on les remet chez la personne. Alors là, il y a moins de rejet, hein? Puis c'est donc une combinaison de cellules souches puis thérapie génique. Et puis là, en tout cas, ça a l'air qu'après 2 ans, déjà 3 ans de ces essais-là chez quelques patients, que ça dure. Là. Fait qu'il y a peut-être, mais ça ne s'appliquerait pas à toutes les maladies, mais c'est des technologies prometteuses aussi.
On parle aussi que ça pourrait convenir dans les cas de maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.
Oui, il y a eu des essais pour la maladie de Parkinson, mais encore là, là, c'est beaucoup plus complexe. Là, habituellement, et chez la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, il y a des sous-types qui sont vraiment génétiques, qui sont dus à un gène défectueux. Tant, il y en a dans le Parkinson, puis il y en a la maladie d'Alzheimer. Fait que là aussi, on peut penser que ça pourrait fonctionner, les nouvelles technologies. Par contre, la majorité des gens qui ont le Parkinson et l'Alzheimer, c'est multifactoriel, plusieurs gènes, des facteurs environnementaux. Donc, c'est plus difficile à imaginer, quoi qu'on peut aller cibler maintenant certains gènes, puis faire des essais là, de au moins réduire l'impact. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe qu'une maladie monogénique. Oui. Là. Oui.
Vous le disiez tout à l'heure, Gail Ouellet, ça coûte cher, ces thérapies-là. J'imagine que c'est un obstacle également à en voir énormément dans plusieurs secteurs, chez plusieurs patients. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre, peut-être pas tous les centres hospitaliers non plus. Est-ce que c'est financé, la thérapie génique?
Écoutez, c'est cher. C'est des technologies, puis d'autres nouvelles technologies comme ça, thérapeutiques, qui sont chères. Au Québec, ici, il y a des chercheurs qui demandent des installations, puis parce qu'il faut même des installations spéciales pour produire hein, ces virus-là, étant donné qu'on les injecte chez les humains. Ben puis, oui. Donc, et puis on n'a pas encore ça ici, d'autres pays qui le demandent. La France sont assez avancés, ils ont des pôles technologiques où ils en font régulièrement, mais ça coûte cher, puis effectivement, c'est dommage pour les patients avec des maladies rares, parce que pas juste la thérapie génique, mais les autres thérapies qui sont souvent des innovations, qui sont souvent des nouvelles technologies biologiques, coûte cher, puis comme c'est un marché qui est petit, les personnes avec les maladies rares, ben là, les payeurs, que ce soit le gouvernement ou que ce soit des assurances privées, ils trouvent ça coûteux, donc on a de la difficulté à faire accepter de rembourser ces médicaments-là. Et les gouvernements ont peur que, parce que il y a des développements technologiques mm-hmm. toujours, c'est toujours encourageant. Moi, je vois ça toujours comme la carotte et le bâton, si on veut. Les patients qui voient toutes ces découvertes-là oui. arriver, et puis finalement, ils ont difficulté d'avoir accès. Moi, je dis toujours, qu'est-ce qui est pire, est-ce que c'est de ne pas avoir de médicaments sur sa maladie ou d'en avoir un?
Mais de ne pas y avoir accès.
Exactement. Oui. Puis je c'est un dilemme, autant pour nos gouvernements, là, comme vous le voyez, qui essaient de diminuer là, leur budget, les assureurs qui voient ça venir aussi, les assureurs privés. Fait que c'est un dilemme, mais moi, en tant que scientifique, en mm-hmm. plus, qui vois tous ces développements-là où on voit de l'espoir pour les gens, ben je trouve ça, je suis ambivalente, je trouve ça un peu décourageant à certains moments quand on pense qu'ils n'auront pas accès.
Mm-hmm. Évidemment, ben on souhaite que dans les prochaines années, plus de personnes aient accès à la thérapie, aux thérapies géniques, on devrait dire, Gail Ouellet. En terminant, je veux absolument parler de ce mois de février qui est important du côté du regroupement des Québécois des maladies orphelines, notamment 29 février, une journée rare, et c'est la journée des maladies orphelines. Vous préparez quoi pour ce mois-là, Gail Ouellet?
Oui, effectivement, cette année, c'est la vraie journée rare, hein? À chaque 4 ans. Donc, ben là, on a... ce qu'on vise, là, c'est notre objectif le plus grand, c'est de faire diffuser des messages à propos des maladies rares. On voit qu'ils sont de plus en plus connus, mais c'est ça qu'on veut faire. Il y a évidemment la journée même, on fait un salon de la rareté. Là. Ça va être publicisé dans les prochains jours à l'Institut de recherche clinique de Montréal, où on est situé maintenant. Et les associations de patients de maladies rares vont pouvoir avoir des kiosques et des ceux qui n'ont pas d'association vont pouvoir afficher l'information sur leur maladie, puis les gens vont pouvoir venir leur poser des questions sur leur maladie, leur réalité. Fait que c'est ce qu'on vise, là, puis il y a des petites activités un peu partout dans des écoles par des parents d'enfants avec des maladies rares.
Et pour en savoir davantage, on dirige les gens sur votre site rqmo.org. Yael Ouellette, merci beaucoup. Essayons de ne pas attendre encore un an avant de se reparler.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
James Hanman, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes au bout du fil, là, pour nous parler de cette expo en camp, Parle-moi d'amour, de l'organisme des impatients. Le vernissage a lieu demain. James, une façon pour vous, bon, vous vous impliquez au sein de l'organisme depuis 3 ans, une façon de célébrer la différence.
Oui, une façon de célébrer, je dirais aussi, la vitalité de ces impatients qui souffrent de problèmes de santé mentale, puis qui, à travers l'organisme des impatients, ont l'occasion de créer, de trouver une place dans le monde, dans leur communauté et dans le monde au sens large du terme. C'est un lieu assez extraordinaire et l'exposition en camp leur permet de nous montrer, de nous présenter le fruit de leur travail. Mm-hmm. Et c'est une façon à la fois pour eux d'exister, d'être vus, puis de créer du lien, non seulement entre eux, mais avec le public. C'est un moment important chaque année pour les impatients, pour l'organisme, comme pour les impatients eux-mêmes.
C'est la 18e année aujourd'hui. Ça démontre que cet organisme-là a réellement sa place au sein de notre société.
Oui, je pense que tout le monde se doute à quel point les problèmes de santé mentale sont répandus. Combien de gens autour de nous en souffrent à des degrés divers. Hein. Il y a quand même un spectre de problèmes qui est assez vaste. Oui, c'est important d'avoir des organismes qui, j'allais dire les prennent en charge, mais c'est pas ça qui leur donne c'est un tremplin, en fait, oui. Les impatients. C'est des gens qui sont à un stade dans leurs difficultés où ils sont en mesure d'être parmi les autres, de participer, de créer, de s'exprimer, de partager, d'avoir quand même un degré important d'autonomie quand même pour la plupart d'entre eux. Beaucoup d'entre eux vivent seuls, etc. D'autres sont moins autonomes, mais oui, c'est important d'avoir des lieux. Mais ce qui est particulier avec les impatients, c'est que d'abord, ils en recueillent beaucoup. Ils en accueillent peut-être 400 par semaine qui viennent aux impatients pour participer à des ateliers d'écriture, de vidéo, de dessin, de peinture. Donc, c'est un espace qui est important. Puis en plus, les impatients est un endroit qui est beau. Je trouve que c'est assez merveilleux de voir la chapelle historique du Bon Pasteur qui est investie par toutes les œuvres des impatients sur ces murs qui sont si beaux. Puis au quatrième étage, dans une espèce de mansarde qui est magnifique. Ce sont des espaces où, souvent, quand on imagine les gens avec des problèmes de santé mentale, on imagine des institutions qui sont dans des sous-sols, des endroits qui sont éclairés au néon. Puis c'est souvent vrai. Mais dans le cas des impatients, c'est un lieu de beauté. Et les impatients en parlent eux-mêmes à quel point le fait d'être dans un endroit qui est inspirant a un impact sur eux, sur leur morale, sur leur désir de revenir participer aux impatients. Alors, moi, c'est sûr que j'ai un attachement. Ça fait 8 ans que je côtoie les impatients, que je participe à différents degrés à leurs activités annuelles, à Parlez-moi d'amour. Et c'est sûr que j'ai un faible pour les impatients parce que je trouve qu'ils sont menés par une équipe extraordinaire. Parce que les impatients eux-mêmes sont... C'est quelque chose à voir, vous savez, d'être dans les ateliers, de les voir travailler, de les voir rire, de les voir pleurer, des fois quand ils sont en train de créer, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sortent. Mais de sentir qu'ils ont un espace qui leur appartient et où ils sortent de l'isolement, ils sortent du regard de l'autre qui parfois les juge ou les comprend pas ou s'éloigne parce que les gens savent pas trop comment interagir avec eux. Mais là, ils sont en sécurité, puis ils sont dans un vrai espace d'expression et de fraternité. Et je vous jure, ça, c'est pas pour faire du sentimentalisme, mais c'est que ça, ça donne quand même des larmes aux yeux de voir que pour tous ces gens-là, c'est un lieu d'espoir.
Oui. Et, vous parlez d'un lieu qui est beau. En même temps, c'est un lieu de création aussi. Vous êtes acteur, vous êtes bien placé pour savoir que la création peut être un baume, peut être un vecteur très important aussi d'une panoplie de belles choses. Il y a des bienfaits pour les impatients de créer, que ce soit par l'écriture ou la peinture, le dessin.
Ah oui, oui, il y a vraiment des vertus thérapeutiques à toutes les façons de pouvoir exprimer ce qui est incompris, ce qui dort à l'intérieur de soi, ce qui boue à l'intérieur de soi, ce qui veut exploser, ce qui veut rire aussi, parce qu'il y a beaucoup de luminosité dans leurs œuvres. Vous savez, il y a à peu près 330 œuvres qui sont sur les murs au rez-de-chaussée, au quatrième étage. Puis il faut le voir pour le croire, parce que la plupart des œuvres ont un format de 12x12. Ça pète de partout, ça pète de vie, ça pète de couleur, ça pète de désir d'être au monde, dans le monde, de vivre. Alors moi, je dis tout le temps, c'est un lieu extraordinaire pour avoir. Vous savez, c'est un encan, il y a moyen de miser sur des œuvres, mais j'invite vraiment les gens entre cette semaine et jusqu'au 15 mars à aller faire un tour au 100 Sherbrooke-Est, à la chapelle historique du Bon Pasteur, juste pour voir. C'est quoi? Pour aider, pour tendre la main, mais aussi pour soi-même, parce qu'on en ressort vraiment, on est pas mal tonifié quand on sort de là, et c'est merveilleux pour les enfants aussi de voir, de voir tout ça.
Pour les profits, évidemment, parce que les sous amassés lors de cet encan vont à l'organisme Les Impatients, mais en même temps, d'être en contact avec la différence, et pour les enfants, j'imagine que c'est bien déjà de pouvoir la saisir et de l'accepter dès le plus jeune âge. Donc, c'est une bonne idée d'inviter les enfants, James Edmund. Je n'y aurais pas pensé.
Ils verront peut-être pas, ils vont peut-être croiser des impatients, peut-être qu'ils n'en croiseront pas. Ils sauront jamais que c'est des impatients, parce que la plupart d'entre eux, vous savez, c'est des gens qui fonctionnent, qui parlent, qui disent bonjour, comme vous et moi. Alors, c'est pas écrit sur le front. Ils verront peut-être pas des impatients, mais ce qu'ils vont voir, c'est des œuvres qui parlent. C'est un festival de couleurs. Ils vont voir un lieu qui est magique. Et puis je pense que pour les parents, des fois, qui se disent « Ah ouais, c'est pas évident avec les enfants de trouver des trucs », ben moi qui ai un enfant en bas âge, c'est un peu jeune pour voir ça, mais vraiment, c'est une sortie qui en vaut la peine pour tout le monde. Pour les petits, j'ai envie de dire de 7 à 77 ans.
Il y a 10 centres maintenant à Drummondville, à Verdun, Rive-Sud de Montréal.
Oui, ça parle aussi de la vitalité, de la nécessité des impatients, parce qu'ils font des petits. C'est un travail qui génère des envies ailleurs de faire, de s'inspirer, de faire pareil pour venir en aide à des gens qui souffrent de santé mentale partout.
Alors, on invitera les gens sur leur site impatients.ca. James Edmund, les impatients sont très chanceux de vous avoir comme porte-parole. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous et l'invitation est lancée à tout le monde.
Certainement, elle est notée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Eh bien, merci d'avoir été des nôtres. C'est déjà la fin. C'était Jean-Sébastien, le tenant derrière la console. Marianne Paquette au micro. On vous redonne rendez-vous demain, 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.